L'évangile de Jean, chapitre 13. Versets 31 à 35. Jean chapitre 13, versets 31 à 35. Au nom de Jésus. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant apparaît la gloire du Fils de l'homme et la gloire de Dieu se manifeste en lui. Et si la gloire de Dieu se manifeste en lui, Dieu aussi fera apparaître en lui-même la gloire du Fils et il le fera bientôt. Mes enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs. » Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Il faut que vous aimiez les uns et les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns et les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. L'évangile de Jean est assez particulier parmi les quatre évangiles, déjà dans sa structure, car il ne raconte pas l'événement Jésus, l'histoire de Jésus, selon l'ordre chronologique. Dans Matthieu, Marc et Luc, il y a quand même de l'ordre. Mais chez Jean, lui, il s'en fiche carrément de l'ordre historique. Il fait ce qu'il veut. Et comme un bon théologien, il sélectionne les récits comme il le veut et il les arrange dans le but de construire un message théologique assez poussé. Regardez ici, rien qu'en quatre versets, Jean met en un seul bouquet tout l'histoire de l'Évangile. La passion, la résurrection, l'ascension et la vie des apôtres post-Pentecôte, en quatre versets. Au verset 31, il est bien dit que dès que Judas fut sorti, Judas Iscariote, il est parti vers les grands prêtres pour organiser le moment où Jésus allait être capturé. Jean mène son lecteur vers le moment de la passion du Christ. Et tout à coup, au verset 33, la phrase est un peu ambiguë, car on dirait qu'en même temps, il fait allusion à la mort de Jésus, mais dans le sens où il dit qu'il va aller vers le Père pour présenter son sacrifice au Père. C'est ce qu'il dit au verset 33, je reprends ce verset, « Mes enfants, je suis avec vous pour peu de temps, vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Donc en même temps, il parle de sa mort, mais aussi il parle de ce qu'il va réaliser, il va aller vers le Père. Et c'est plus précis dans Jean chapitre 20, verset 17. Rappelez-vous cette phrase un peu bizarre que Jésus avait dit à Marie-Madeleine, « Cesse de t'approcher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père, et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Donc Jésus était en train de faire la navette entre le ciel et la terre. Beaucoup étaient de théologiens, des exégètes qui se disent « Non, mais il voulait dire ceci, par cela, c'était le moment où il va annoncer son retour auprès du Père. » Non, il est en train de faire une navette. Et là, c'est vraiment le Jésus après la résurrection, c'est plus le Jésus avant la résurrection. Donc la phrase semble aussi parler de l'ascension comme une annonce de la suite du programme, mais le retour à la montée définitive vers le Père n'était pas encore au programme à ce moment-là. Et donc ce que Jésus avait dit à Marie-Madeleine ne consistait pas à préparer le cœur pour l'ascension, mais pour montrer que dorénavant, juste après sa résurrection, le Fils de l'homme, et je mets entre guillemets cette expression, le Fils de l'homme va et vient auprès du Père. Alors, il peut être dans le ciel, en même temps à la droite du Père, mais aussi il se retrouve au milieu de son Église. Et c'est ça le Jésus ressuscité aujourd'hui. Le Christ omniprésent, il est à la fois à la droite du Père en ce moment-ci, mais aussi il est là. C'est le Jésus qui est ressuscité. Et le texte le montre clairement. Le terme « fils de l'homme » est une expression apocalyptique utilisée par Daniel pour la première fois pour dire que ce fils de l'homme, dans le livre de Daniel, est celui qui vient d'en haut à travers les nuées et qui a reçu toute la domination, la gloire et le règne. Voilà ce que c'est que « fils de l'homme ». Alors, ce que Jean essaie de nous faire comprendre, c'est que la conséquence directe de la résurrection de Jésus-Christ, il a uni le ciel et la terre en sa personne. En Jésus, le ciel et la terre est réunis. Et aussi, en lien avec la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, dans Jean chapitre 16, verset 7, Jean chapitre 16, verset 7, il est dit « Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. En d'autres termes, là où Jésus est, le ciel y est. Et tout ce qui vient avec, c'est bien fait. Et rappelez-vous de ce que Jésus avait dit à Nathanaël, « Tu verras des choses plus grandes encore. Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Jean chapitre 1, verset 51. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a un couloir ouvert entre le ciel et la terre grâce à Jésus. Et c'est ce que j'avais prêché hier aussi lors de l'Assemblée district. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, c'est-à-dire il a ouvert un chemin. Et ce chemin est libre. Et pourquoi les enfants de Dieu n'en profitent pas de ce chemin qu'il a ouvert? C'est étonnant. Nous n'avons pas d'objectif d'aller au ciel. Ça, c'est une hérésie. Nous ne venons pas au culte pour aller au ciel. Nous ne lisons pas la Bible pour aller au ciel. Jean chapitre 14, verset 3. « Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. » Donc faisons très attention de ne pas être des idolâtres sans le savoir. Suivre le Christ dans un objectif d'aller au ciel, c'est une idolâtrie. À ce moment-là, c'est le ciel qui devient notre principal objectif. Alors le Christ devient un moyen. Je veux avoir le ciel, donc je dois passer par Jésus. Mais quand on dit que Jésus est ma seule richesse, dit les paroles, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas une idée de consolation comme certains philosophes athées essaient de nous accuser, que les chrétiens, paraît-il, ont inventé le ciel et la vie éternelle. Justement, c'est pour cette raison qu'ils nous ont attaqués pour cela, parce que le message qui a été véhiculé était faux. Les chrétiens ont inventé la vie éternelle pour oublier pendant quelques heures leur souffrance terrestre, pendant quelques minutes leur vie misérable. Et donc pour eux, le ciel devient une sorte d'échappatoire psychologique pour le chrétien, ou même une thérapie pour se faire du bien. Non, ce n'est pas cela. Le ciel, la vie éternelle, nous la vivons aujourd'hui, dès maintenant. Le ciel n'est plus un objectif, le ciel, tu l'as déjà. Parce que là où le Christ est, là, tu as la vie éternelle. Alors, il est à conseiller pour nous, chrétiens, quand nous sommes en contact avec des gens qu'on croit, qui ne croient en rien, de se focaliser que sur la personne de Jésus. Ne venez pas vers les gens pour dire « tu veux être sauvé ». Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire connaître les gens à Jésus. Car notre message, c'est d'aimer notre Seigneur de tout notre être, de toute notre pensée, mais non pas aimer le ciel. Parce que le ciel, c'est une créature, une création. Aimer le Christ et non pas aimer le ciel. Dans les versets 34 à 35, on peut se poser la question suivante. Mais pourquoi tout à coup Jean reprend cette consigne de Jésus? Versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement. » Et là, comme s'il change de répertoire. « Aimez-vous les uns et les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns et les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns et les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » C'est pour cette raison qu'au tout début de ma méditation, que j'ai parlé de la vie des apôtres post-Pentecôte et qui fait partie du bouquet que Jean a mis dans ces quatre versets. Puisque le ciel et la terre sont unis à jamais grâce au Fils de l'homme, alors les réalités du ciel, je dis bien les réalités du ciel, viennent aussi ici-bas parmi les enfants de Dieu. Et c'est quoi cette réalité du ciel? L'amour fraternel. L'amour fraternel mentionné par Jean est un signe visible pour les gens de l'extérieur que vous êtes mes disciples. L'amour fraternel est une sorte d'émanation des réalités du royaume des cieux. Ce n'est pas un code de conduite qu'il faut avoir, mais c'est l'émanation de la vie dans le ciel. Même chose aussi pour les miracles. Nous les appelons miracles pour nous parce que cela vient d'une autre dimension que de la nôtre. Mais soyons conscients de ceci, à chaque fois que nous venons dans la prière vers Jésus, nous entrons dans une dimension céleste. Je ne sais pas pour vous, au moment où vous priez dans votre chambre, dans votre pièce, dans votre voiture ou dans votre bureau même, vous entrez dans une dimension céleste. C'est pas juste fermer les yeux et dire quelques mots. C'est pas comme chez nos amis musulmans qu'il faut prier 5 fois pour que Allah soit content. Non. Vous entrez dans cette dimension, Dieu qui est là. Nous avons accès à tout temps, en tout lieu, de l'éternité de Dieu. Et cette éternité, profitons un maximum de ce privilège que le Seigneur nous offre. Je dis cela pourquoi? Parce que c'est vraiment aberrant de voir, ça fait mal au cœur même, de voir des enfants de Dieu qui ont du mal à avoir une vie de prière. Et le comble, on doit encore exhorter les chrétiens d'expérimenter cette vie de prière. Ça ne devrait pas aller dans ce sens-là. Mais je peux vous assurer que ceux qui n'ont pas cette vie, ils passent à côté d'une grâce inouïe, d'une faveur inouïe. Juste un moment passé avec le Christ. L'éternité, chers frères et sœurs, n'est pas une notion de temps comme on le croyait. L'éternité, c'est un lieu, ce n'est pas un temps. Un espace où tu es à la rencontre de ton Dieu. Là où le Seigneur est, l'éternité y est aussi. Et donc le croyant, il côtoie chaque jour cette dimension d'éternité. Dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 12, il est dit « Dieu nous a donné la vie éternelle. » Regardez bien, il nous a donné, c'est déjà fait. « Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors la question que je vous pose, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne profitons pas pleinement de cette éternité qui nous est accessible? Pourquoi attendre mourir pour espérer ce moment magnifique? Si nous comprenons qu'il y a une richesse spirituelle immense qui nous est offerte tous les jours, je pense que nous changerons d'attitude dans notre façon de prier. Je pense que nous allons changer de notre façon de lire même la Bible, dans notre façon de vivre avec le Christ, si tu sais que dès que tu prends ta Bible, dès que tu pries, tu entres dans une autre dimension. Ça te fait même une sensation bizarre à l'intérieur. Parfois, les gens me disent, mais tu es trop mystique. Peut-être. Peu importe le titre qu'on me donne, mais je dis, c'est une vie d'abondance. Et si cela est compris comme une soumission à Dieu ou un préalable à la vie chrétienne, je trouve que la vie chrétienne alors serait une vie contraignante et bien triste. Ce n'est pas une soumission, c'est une vie. Mais si au contraire, tout cela devrait devenir un besoin de l'oxygène puisque nous faisons partie de ce royaume céleste, nous aurions vraiment besoin de vivre pleinement de cette éternité par tous les moyens possibles. Et c'est pour cela, quand vous priez le Notre Père, que ton règne vienne. On ne prononce pas juste comme ça par cœur. Que ton règne vienne. Et quand tu pries cette prière, le règne de Dieu vient vers toi. Par tous les moyens de grâce que Dieu veut venir vers nous, par la prière, par la lecture de la parole, par les sacrements, par la communion des saints, tout ce que nous disons dans la confession de foi. Ces choses-là que je qualifierais de grandes portes ouvertes qui nous donnent accès à l'éternité. Entre-y pleinement. Et pour terminer, dans l'Épître aux Hébreux, il appelle cela « entrer dans le repos de Dieu ». Hébreux chapitre 4, verset 10-11. « Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Empressons-nous. » Une autre belle image utilisée aussi dans le livre d'Ésaïe. « Pour ceux qui sont avec Dieu sur sa montagne, là où il est, ce qui attend celui qui serait présent, c'est un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, un banquet de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. » Ésaïe chapitre 25, verset 6. En d'autres termes, il y a vraiment de quoi se régaler. Il faut en profiter, chers amis. Profites-en dès maintenant. Amen.